Bonjour. Je lisais une phrase terrible l'autre jour. Voilà cette phrase. L'Église sans l'Évangile, c'est un poison. Et mes frères et sœurs, c'est vrai. Parce que le mot Évangile, ça signifie bonne nouvelle. L'Évangile, c'est l'espoir suprême, c'est l'espoir ultime de tous les enfants de Dieu. Recevoir une bonne nouvelle et puis la vivre. Et c'est le repentir qui rend accessible l'espérance de la vie éternelle à ceux qui l'appliquent. Par contre, le péché dont nous ne nous repentons pas, ça nous désespère. Je voudrais vous faire une lecture ce matin. Je vais d'abord prier pour que le Seigneur bénisse toutes ces choses. Merci Jésus de nous garder tous dans ta paix, de nous permettre de bien comprendre toutes ces paroles et de voir que de sonder nos cœurs afin que tu puisses en extirper ce qui n'est pas bon et que tu puisses le remplacer par de bonnes choses. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit béni mon Dieu. Amen. Alors voilà la lecture que je voudrais vous faire. Et je voudrais vous exhorter, mes frères bien-aimés, à vous souvenir qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que tous ces dons dont je vous ai parlé, qui sont spirituels, ne seront jamais abolis, aussi longtemps que le monde demeurera, si ce n'est selon l'incrédulité des enfants des hommes. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la foi. Et s'il faut qu'il y ait la foi, il faut aussi qu'il y ait l'espérance. Et s'il faut qu'il y ait l'espérance, il faut aussi qu'il y ait l'amour. Et si vous n'avez pas la charité, l'amour, vous ne pouvez en aucune façon être sauvé dans le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas non plus être sauvé dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas la foi. Et vous ne le pouvez pas non plus si vous n'avez pas l'espérance. Et si vous n'avez pas l'espérance, vous devez nécessairement être dans le désespoir. Et le désespoir vient de l'iniquité, de l'injustice, du péché. Et le Christ a dit en vérité à nos pères, si vous avez la foi, vous pouvez faire tout ce qui m'est utile. C'est une belle parole, je trouve, magnifique. Vous savez, quand les âmes renaissent, quand les vies changent, alors vient le grand miracle qui embellit, qui réchauffe et qui élève. Quand la mort spirituelle a menacé, et qu'au lieu de cela, il y a maintenant la résurrection, c'est-à-dire la nouveauté de vie, la nouvelle naissance. Quand la vie repousse la mort, quand ça arrive, c'est le plus grand miracle. Je me rappelle quand Raphaël avait prêché ce 1er juin 68, j'étais là et on s'était avancé, il avait fait l'appel pour la repentance et je m'étais avancé, je pleurais. Et il a dit ensuite, voilà, ça c'était la plus belle partie de notre réunion, quand une âme est sauvée, quand elle s'est repentie. Maintenant, nous avons passé à la deuxième partie, c'est la guérison des malades. Et c'est là qu'il a prié pour des malades et qu'il y a eu beaucoup de miracles, des paralytiques, des aveugles ont été guéris. C'était magnifique. Et il disait, mais la plus grande des choses, c'est quand quelqu'un se repent, se échange de vie. C'est ça la plus belle des choses. Mais qu'est-ce que c'est le vrai repentir? Je vais essayer de vous le dire d'une façon non religieuse. Le repentir, le vrai repentir, c'est le principe obligatoire de la progression. Vous savez, chaque principe, chaque ordonnance de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ contribue à la progression. Et sans le repentir, c'est impossible de progresser. Le repentir fait partie du processus de la progression, du processus de l'apprentissage, du processus de la maturité, de la reconnaissance de ce qu'est la foi, de la compréhension des résultats qu'on obtient dans notre vie. Le repentir, c'est le processus par lequel on fait face aux faits. Chaque correction d'erreur est une forme de repentir. Chaque excuse sincère est une forme de repentir. Chaque amélioration est une forme de repentir. Chaque victoire sur une mauvaise habitude est une forme de repentir. Alors, il faut savoir que Dieu a décrété que tous ceux qui ne veulent pas obéir à sa voix n'échapperont pas au châtiment de la géhenne. Alors, la question, le châtiment de la géhenne, c'est quoi la géhenne? Alors évidemment, on a des tas d'idées. Bon, la Bible nous en parle, puis il y a des tas de prédicateurs qui en ont parlé. Et moi, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous faire sourire, mais je crois que le châtiment de la gêne, c'est un peu se retrouver dans la société de tous ceux qui n'ont pas obéi à ses commandements. Et ça, c'est déjà l'enfer. Je ne sais pas si vous avez lu Paul Sartre. Il faisait dire à un de ses personnages, l'enfer, c'est les autres. Et ben, je vous garantis, se retrouver en compagnie éternelle de démons qui se sont révoltés contre Dieu et d'humains qui n'ont pas voulu croire et obéir à Dieu, ben, rien que ça, ça me fait frémir. Wow. Déjà, vivre en compagnie d'incrédules, c'est pas facile. Les gens, vous leur dites des choses, ils disent, je crois pas, non. Alors, imaginez vivre éternellement avec des gens comme ça, non. Heureusement, ils iront pas tous en enfer, mais la Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et heureusement, j'espère que, bon, on se retrouvera entre personnes qui avons cru la même chose, parce que vivre avec des personnes qui croient pas la même chose que vous, et qui en plus vous condamnent, ça c'est vraiment l'enfer déjà. Maintenant, quel progrès un homme inconscient de ses erreurs, quel progrès peut-il faire? Parce qu'un tel homme a perdu l'élément fondamental de la progression. Je veux dire par là qu'un tel homme, il a perdu la compréhension qu'il existe quelque chose de plus grand, de mieux, de plus désirable, de son état, ou de ce qu'il croit tout simplement, ou de ce qu'il vit. Il a perdu cette compréhension. C'est le sol du contentement de soi. Sur ce sol-là, la progression véritable ne peut pas se nourrir correctement. Dans Apocalypse 3, il est dit que les gens de la dernière église, de la dernière époque de l'église diront « Je me suis enrichi, j'ai tout, j'ai le plein évangile, j'ai besoin de rien. » Voilà. Eh bien, Dieu a tout dit, tout ce que je crois, il n'y a rien de plus. Tu viens nous dire que Dieu rétablit les choses, mais ce n'est pas vrai. On a le plein évangile, on connaît, ça c'est faux. Tu rajoutes à la Bible, etc., etc. Ils ne veulent pas comprendre. Eh bien, les racines que produisent de tels hommes, elles trouvent de plus en plus d'insatisfaction. On n'est pas fait pour tourner en rond, on est fait pour monter. Alors, le premier pas vers la connaissance, c'est de s'apercevoir déjà qu'on manque de connaissance. Et le premier pas vers la progression spirituelle consiste à croire en une vie meilleure, en une vie supérieure. Et ça consiste en fait à prendre conscience de l'avilissement dans lequel on est là, ou dans quel misérabilisme on vit, dans quel train-train, quelle routine. Se repentir, c'est se détourner de ce qui est bas. Et c'est de s'efforcer à atteindre ce qui est supérieur. Vous voyez, je vais vous en parler d'une façon non religieuse. Avec des mots qu'on emploie, et qui ne sont pas forcément religieux. En tant que principe de salut, le repentir comprend non seulement l'aspiration à ce qui est meilleur, mais également une grande tristesse, pas un simple remords. Il y a trop de gens ils ont le remords d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Non, une véritable tristesse dans le cœur de Dieu, qui vient du fait de la contamination du péché, de ce qui est vil, de ce qui est méprisable. Le vrai repentir, c'est la tristesse à cause du péché qui a blessé le cœur de Dieu. Et puis c'est accompagné par une auto-condamnation. Et parce que quelqu'un vient vous condamner, vous vous sentez vous-même condamné. Voilà. Ça signifie le renoncement total au péché. Ça surpasse de loin le remords. Ça comprend une modification de la nature digne des cieux. Une nouvelle naissance. Alors le repentir, c'est indispensable pour toute vie de progression. Car toute progression exige qu'on fasse une mise au point constante. ce qu'on adopte, on s'aperçoit qu'on doit adopter de nouveaux comportements et qu'on doit rejeter d'autres comportements, qu'il y a des gens, il faut arrêter de les fréquenter, ils nous nuisent, ils nous tentent. On ne peut pas remplacer le mal en faisant quelque chose de bien. Non. Ça ne suffit pas de dire pardon. Il nous faut constamment se remettre devant Dieu et puis corriger et adopter la vérité et faire de bonnes actions. Vous savez, je me rappelle, je vous l'ai déjà dit souvent, il faut passer du mal au bien, puis ensuite du bien au mieux, et puis ensuite du mieux à l'excellence. Alors lorsque je me suis repenti, vraiment, la première fois, ce fameux 1er juin 68, ce repentir, il m'a conduit au baptême. Alors, on m'a expliqué que quand on allait me plonger dans l'eau, c'est comme si je disparaissais de la terre, du monde des vivants, et que je jetais dans un élément de mort, et puis que quand j'allais sortir, c'était un symbole de ma nouvelle vie, je sortais dans une nouveauté de vie. Et j'ai vite réalisé quand même la nécessité du vrai repentir qui doit demeurer toute la vie. C'est pas parce que je me suis fait baptiser que voilà, c'était terminé. Quand vous vous êtes fait baptiser, c'était un point final sur votre ancienne vie, mais ça ne vous a pas garanti contre toutes vos folies d'après. Bon, il y a aussi une chose quand même qu'il faut que je dise clairement, parce que quand je dis le repentir doit être constant, ça ne veut pas dire que c'est un cycle de je pêche, je me repens, je repêche, je me re-repens, je me re-repêche, je me re-repens encore. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça, c'est du catholicisme, c'est de la religion. Se repentir, c'est voir le bien et le suivre. C'est reconnaître le mal et y renoncer. Ce que je veux dire, c'est que l'idée progressive d'une bonne vie, elle doit s'accompagner de mise au point constante. Si nous voulons être en accord avec la volonté de Dieu, c'est comme ça. Et c'est votre esprit qui doit se repentir, pas vos sentiments. Les sentiments, c'est encore la chair. Votre esprit qui doit se repentir et décider de changer. Alors là, le combat peut commencer ensuite à se dérouler contre la chair. L'esprit est ardent, mais la chair est faible, alors il va falloir mener un combat. Et Dieu a parfaitement jalonné la route de notre vie, selon le but divin. Et l'évangile, c'est la carte de route qui est mise à notre disposition, et la destination, c'est la vie éternelle, c'est clairement indiqué. Et c'est à cette destination que notre Père Céleste nous attend, mais il est clair que peu de pèlerins terrestres vont y arriver, parce que Dieu est terrible. Il dit, rien d'impur ne peut entrer dans mon royaume, rien d'impur, impur. Mais c'est quoi ça l'impureté? Dans l'écriture sacrée, on voit ce que c'est l'impureté, mais dans le cœur de Dieu, c'est la même chose. Ce que Dieu dit de sa bouche, ou ce qu'il a dit, ce qui est écrit dans la Bible, c'est la même chose. Pour lui, l'impureté, c'est... Pour nous, l'impureté, ça peut avoir un sens relatif, n'est-ce pas? Par exemple, alors, je fais une petite tache de ketchup sur ma chemise, mais ça ne se voit pas beaucoup. C'est pas impur. Et pour Dieu, oui. Vous voyez, je vous donne juste un exemple. La pureté pour Dieu, c'est la pureté morale, c'est la pureté personnelle. Tout ce qui est moins que cela, c'est l'impureté. Ça ne peut pas demeurer avec Dieu. Non, il y a une chose à savoir, c'est que la transgression quotidienne suivie du repentir quotidien, ça ne plaît pas trop à Dieu. C'est un petit peu comme le repentir sur le lit de mort, ça ne lui plaît pas non plus. Pas trop, il fait grâce, il est bon, mais quand même, il ne faut pas pousser. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous repentions et que nous le suivions avec une santé spirituelle, avec la force et la puissance de son esprit. Il y a des personnes qui pêchent. Pêcher, ça veut dire manquer le but, ça veut dire se tromper aussi, ça veut dire rater l'objectif. Et puis qui s'endurcissent tellement, qui persistent dans leur erreur, que finalement, ils s'intoxiquent complètement jusqu'au point de non-retour. Et ils sont persuadés d'être dans le vrai. En ce moment, je connais un groupe de personnes comme ça qui s'entêtent au point de ruiner des années de travail fait avec tout notre cœur, mais ils s'entêtent. Ils s'entêtent. Ils préfèrent. Ils savent qu'ils vont tout perdre, mais pourvu que nous aussi on perde. Vous comprenez, c'est terrible. Ils nous accusent, c'est notre faute. Eh bien, ils s'enfoncent dans leur péché, ils sont convaincus par un esprit malin. Leur erreur, elle s'est incrustée en eux, ils ne veulent rien écouter, leur volonté de renoncer à leur fausse prophétie s'affaiblit de plus en plus. Il est évident que leur prophétie ne peut pas s'accomplir ici. Pourtant, ils ont dit, non, c'est ici, il y a une vision, puis maintenant qu'ils voient que ce n'est pas possible, ils disent, ah ben ça peut être ailleurs. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Eh bien, ils s'endurcissent. Et je vous le dis, ils glissent de plus en plus vers le bas, ça ne me réjouit pas, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de remonter. Ils perdent même le pouvoir de remonter la pente. Et le temps de cette difficulté, c'est long, mais c'est le temps de la patience de Dieu. Vous voyez, la difficulté, elle est longue pour nous qui sommes les victimes parce que Dieu nous permet de nous renforcer, de nous donner des forces nouvelles, de nous donner de l'intelligence, de nous donner de la patience, etc. Puis pour eux, c'est pour leur donner le temps de se repentir. Il leur donne encore la possibilité de se repentir, il y a encore un temps. Ils savent que leur prophétie, leur vision ne s'accomplira pas. Mais c'est un péché volontaire. Quand j'ai essayé de leur faire comprendre que les accusations qu'ils donnaient étaient fausses, elles n'étaient pas bibliques, c'était pas clair, c'était pas juste, ils ont dit non. Et alors, leur repentir devient de plus en plus difficile. Je dis ça pour vous aussi, parce qu'il se peut que vous soyez comme ça, vous endurcir dans quelque chose, il faut que vous ayez l'humilité. C'est par l'humilité, c'est par la contrition du cœur que les pécheurs peuvent accroître leur foi en Dieu et obtenir de lui le don du repentir, parce que c'est lui qui donne le repentir. Plus vous remettez à plus tard le moment du repentir, plus la capacité de se repentir devient faible. Négliger les occasions de reconnaître qu'on s'est trompé engendre l'incapacité de se repentir. Par contre, si nous faisons des efforts, si nous travaillons, si nous essayons de faire de notre mieux, de nous améliorer jour après jour, si nous cherchons à remédier à nos défauts, si nous vivons de manière à pouvoir demander à Dieu la lumière, la connaissance, l'intelligence, et par-dessus tout, l'assistance de son Saint-Esprit, alors, pour vaincre nos faiblesses, alors je peux vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes dans la voie droite, étroite, c'est vrai, mais droite, celle qui mène à la vie éternelle. Voilà, je voulais terminer ce message-là comme ça. Je sais que c'est un petit peu court, mais je ne veux pas terminer sans vous faire une lecture. Je vais vous raconter un fait, quelque chose qui m'est arrivé alors que j'étais tout jeune chrétien. Vous avez peut-être lu cela dans mon livre Oracle. Si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, il faut le commander. On vous l'offre, vous ne payerez que le prix du port. Je vous donne un peu la situation. Je suis suisse et je connaissais des gitans suisses. Et je les fréquentais, j'allais aux réunions chez eux. Et puis voilà, que j'ai reçu l'appel pour aller à l'école biblique du pasteur Lekosek. Pour ceux qui connaissent, c'est un apôtre extraordinaire. Cette école se trouvait au château des Choux. Donc je prends mon billet, je pars avec mes affaires et j'arrive là-bas aux Choux. Il pleuvait, il y avait Camélia qui était là. Et puis Camélia, c'est la vieille gitane, ma maman spirituelle. Et puis elle me dit, il y a Cosette qui t'attend dans son bureau. Faisait une drôle de tête, je trouve c'est bizarre. Enfin bon, je rentre dans le bureau, Et voilà que le frère Le Cossec me parle. C'est la première fois qu'il me voyait, c'est la première fois que je le voyais en vrai, j'avais vu des photos, c'est tout. Il me dit, Michel, j'ai un grand problème. Assieds-toi. Alors je m'assois. Et puis il me dit, voilà, il y a des gitans suisses qui veulent créer une division. Ils ne veulent plus que ce soit la mission française qui les dirige. Ils veulent leur propre mission tzigane suisse. Ils sont trois pasteurs, là. Ils remontent le peuple contre la mission tzigane. Et ils ont trouvé un truc pour me discréditer. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il raconte que toi, Michel Janton, tu couches avec plein de filles et que moi, j'accepte dans mon école biblique un garçon qui est impur, qui couche avec toutes les bonnes femmes et tout ça. Alors ça me pose un problème parce que, est-ce que tu vois le problème? Je dis, ben ouais, je vois le problème. Il me dit, alors rassure-toi Michel, le Saint-Esprit m'a montré que leur accusation est fausse. Je crois dans ta pureté. Je dis, ben gloire à Dieu, merci. Mais vous savez, c'était lourd. Hein. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses faire? Je dis, ben c'est simple, je m'en vais. Je veux pas mettre la mission en... Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Et ben je m'en vais, voilà, je m'en vais. Là encore, maintenant, là, je m'en vais, voilà. Et le pasteur Le Cossec m'a remercié, il m'a dit, mais Dieu va te justifier, je te remercie. Il a passé un coup de fil à son copain, André Nicole, qui venait d'ouvrir une école biblique à Bièvre. C'était l'école biblique des Assemblées de Dieu. Il m'a dit, écoute, j'ai un garçon ici, c'est un sédentaire, est-ce que tu l'acceptes dans ton école? Il était tout content d'avoir un étudiant de plus. Donc hop, ça y est, je suis parti. Le soir même, Archange me retrouvait à la gare. Ensuite, il m'a emmené jusque... chez le frère Botron qui m'a pris dans sa voiture et puis on est parti à Bièvre et j'ai fait mon école biblique, donc des assemblées de Dieu comme ça. Et puis l'année d'après, je revenais pour visiter notre sœur Camélia à Paris. Elle avait une petite caravane à Aulnay-sous-Bois et on arrive avec ma mère au train, à la gare, et puis Camélia tout excitée, Michel, Dieu t'a justifié. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Viens, on va à la réunion chez Nicole. Je dis, bon, alors on va à la réunion chez Nicole. Nicole, c'était donc ce fameux pasteur André Nicole, directeur des assemblées de l'école biblique des assemblées de Dieu. Donc, on arrive à la réunion, 10 rue du Sentier, une énorme, c'était la plus grande église de Paris à l'époque. Et bon, il prêche, c'est un homme de Dieu. Si vous n'avez pas connu André Nicole, c'était quelque chose. C'était vraiment un homme de Dieu. Bon, il prêche. Ensuite, il termine la réunion. Et puis, il fait signe à Camélia. Et Camélia, ma mère et moi, on entre dans son bureau. Et là, il y avait trois gitans. Et ils disent, alors mon frère Michel, on s'embrasse, tout ça. Il dit, Dieu t'a justifié. Je dis, mais comment, qu'est-ce que vous racontez là? Il dit, oui, les trois serviteurs de Dieu suisses qui t'ont accusé, eh ben, ils sont tombés tous les trois. Je dis, quoi? Il dit, ouais. Soit eux, soit leurs femmes. Enfin, ils ont un témoignage épouvantable. Donc, Dieu nous montre que vraiment, là, ils peuvent plus rien dire. Ils peuvent plus rien dire, ils peuvent plus nous accuser, ils peuvent plus accuser le Cossec de prendre un adultère. C'est eux qui y sont. Alors voilà. Si tu veux bien, ben, on t'accepte à l'école biblique des Gitans. Waouh, j'étais content. J'étais content. Donc, c'est comme ça que je suis allé à l'école biblique des Gitans, là, cette année-là. C'était formidable. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que pendant toute cette année, je me suis basé sur un texte que ma vieille maman Camélia, ma vieille sœur Camélia m'avait donné. Et ce texte, il m'a tenu pendant une année. Et puis après cette épreuve, il m'a tenu encore pendant longtemps. Et je pense que vous, si vous êtes découragé, si vous êtes victime de gens qui vous font du tort, je pense que ce texte va vous encourager aussi. Je vais vous le lire. Ça se trouve dans Lamentation de Jérémie 3, 21. Et je vous lis le texte. C'est Jérémie qui dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Vous voyez, il veut pas passer n'importe quoi dans son cœur. Il veut pas laisser passer n'importe quoi dans son cœur. Arrêtez de ressasser les histoires avec ceux qui vous ont fait du mal. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de penser à eux. Il suffit de pas les regarder pour qu'ils n'existent pas, hein, c'est tout. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance.
parce qu'on a besoin, hein. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà, c'est ça que je veux repasser dans mon cœur. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Hein, mon être dit ça. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est pas, oh, j'essaye, oh, c'est dur. Non, non, je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, je veux espérer en lui. D'accord? Vous le ferez, hein? L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Moi, j'avais 20 ans. Hein, j'étais jeune. J'ai 65 ans, ben, je peux vous dire qu'on souffre la même chose à 20 ans qu'à 65 ans, quand on est accusé comme ça. Tout ça pour créer une division. Ces gitons voulaient créer une division. C'est encore le même problème. Ça a toujours été mon problème. Ça a toujours été ce problème-là, toute ma vie. J'ai toujours eu ce problème. Mais à chaque fois, je m'en suis sorti victorieux. Mais à chaque fois, ça fait souffrir. Bon, mais je veux, hein, repasser dans mon cœur les bonnes choses de Dieu. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Vous voyez, moi, par exemple, j'essayais d'expliquer au début à ceux qui me font de la peine, là. J'essayais de leur parler, tout ça. Puis j'ai vu que ça sert à rien. Dieu m'a dit, tiens-toi solitaire et silencieux. Alors, je ne les vois qu'au repas, 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, et je me tais. Je me tiens silencieux parce que l'Éternel me l'impose. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Je ne leur parle plus. De toute façon, ils ne me croient pas. Ils disent que je suis un manipulateur. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Enfin, je ne perds pas l'espoir. Hein. Il présentera sa joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, l'Éternel ne le voit-il pas? Et que dira, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Vous voyez, ce qui m'arrive, ben c'est Dieu qui a voulu. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais je commence à voir pourquoi. Et puis, vous, ça, ce qui vous arrive, c'est aussi Dieu qui l'a voulu. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais il est dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ça vous arrive parce que Dieu l'a ordonné. Si c'est vous qui avez péché, repentez-vous. Si ce n'est pas vous qui avez péché, laissez couler. Priez pour vos ennemis, afin que leur châtiment ne soit pas trop dur. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les maux et les biens viennent du Très-Haut? Oui, monsieur. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà, c'est là que je vais vous laisser. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas des péchés des autres. Laissez ça. Plaignez-vous de vos propres péchés. Repentez-vous devant Dieu. Soyez sérieux. Détournez-vous du mal. Détournez-vous des gens qui vous font du mal. Détournez-vous de tout ce qui vous rabaisse. Et élevez vos cœurs devant le Seigneur. Il va vous bénir, il va vous aider. Un jour, on va bien rigoler de tout ça. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, mes chers frères et sœurs. À bientôt. Mais si vous avez besoin, vous, de vous repentir, repentez-vous. Sérieusement, repentez-vous. Amen.